Eh bien, le Seigneur Jésus est aussi comme ça pour nous. Le Seigneur Jésus nous aime, même si nous sommes en conflit avec lui, même si nous éloignons. Bien sûr, peut-être qu'il va faire en sorte de nous ramener à lui. Il ne va pas agir de la même manière avec nous lorsque nous sommes loin de lui et lorsque nous sommes près de lui. Mais n'empêche que nous pouvons être sûrs que ce qu'il fera, il le fera par amour. Parce que c'est un ami constant. Il aime en tout temps. Donc, rien ne nous séparera de son amour. Même si on peut perdre sa communion, mais on ne peut pas perdre son amour, ça c'est certain. Donc le Seigneur Jésus est constant. Et nous aussi soyons constants en amitié. C'est-à-dire que nos sentiments ne varient pas avec les circonstances. Peut-être notre manière d'agir, oui, mais pas nos sentiments d'amitié. On est quasiment à la même page, chapitre 18, verset 24. Il est dit ceci, deuxième moitié du verset. « Il est tel ami plus attaché qu'un frère. » Alors vous voyez ici, il est bien montré que l'amitié est parfois plus forte que la fraternité, c'est-à-dire le lien qui unit deux amis est souvent plus fort que le lien qui unit deux frères. Bon, ça c'est bien connu dans le monde. Et on dit une raison assez simple, c'est qu'on choisit ses amis, mais on ne choisit pas ses frères. C'est vrai. Peut-être aussi que dans une famille, il y a des conflits d'intérêts qui ne sont pas toujours faciles à gérer, alors qu'une relation d'amitié, éventuellement on peut la distendre un petit peu à volonté si elle devient un petit peu désagréable, donc c'est plus facile à gérer. Parce que les frères sont toujours côte à côte, ou dans une famille, dans un couple, on est toujours là, on est obligé de faire route ensemble, alors qu'un ami, on peut prendre des distances de temps en temps et ça peut aider. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que l'amitié crée un lien. C'est un lien qui est fort. Et ça, je pense qu'on peut vraiment l'appliquer au Seigneur Jésus. Il y a un lien entre lui et nous qui fait qu'il partage de près nos circonstances. Et j'ai appelé ça, la qualité qui est la suivante, c'est la compassion. Il est compatissant. Il compatit avec nos circonstances, mieux qu'un frère. Un frère, c'est quelqu'un de proche, mais le Seigneur Jésus, ce qu'il a de plus que nos frères, on va dire, dans la foi, c'est qu'il nous connaît de l'intérieur. Et personne ne nous connaît aussi bien de l'intérieur que le Seigneur Jésus. Et donc, il est à même de comprendre nos difficultés, nos souffrances, ce qui se passe dans notre être intérieur. Ça, les gens ne le voient pas toujours bien. Et il est capable de s'intéresser à tout cela. Donc voilà, il est plus attaché qu'un frère, plus proche qu'un frère, plus à même de comprendre ce que nous endurons, donc aussi plus à même d'intervenir. On passe au chapitre 27, verset 6. Alors là, c'est un peu surprenant. Les blessures faites par un ami sont fidèles, mais les baisers de celui qui est sont fréquents. Alors ça montre que l'ami, c'est celui qui aussi, de temps en temps, sait vous faire mal, qui sait vous dire la vérité. Et c'est vrai que quand quelqu'un vous dit la vérité, mais évidemment, l'ami, il est dit, les blessures d'un ami sont fidèles. Fidèles, je crois que c'est dans le sens de, elles sont bien intentionnées. Elles sont dans un but constructeur, positif. L'ami, il veut vous rendre service, et s'il le faut, il va vous blesser pour vous rendre service. Parce que quelquefois, il faut vous dire la vérité en face. On a besoin d'entendre la vérité, quelquefois. Eh bien, l'ami, il fait cela. L'ami, il va pas faire semblant que tout se passe bien. Parce qu'il veut quand même que tout aille bien, il va mettre un peu le doigt où ça fait mal de temps en temps. Alors le Seigneur fait cela. Il nous faut être assurés que le Seigneur est fidèle dans les blessures qu'il permet dans nos vies. S'il nous éprouve, c'est pour notre bien. C'est qu'il est en train de construire quelque chose. Et il faut toujours regarder, l'épître de Jacques nous le dit, estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en butte à diverses épreuves. Parce que l'épreuve produit la patience et ensuite tout un ensemble de qualités. Donc le Seigneur permet des épreuves. Mais comme le ferait un ami, c'est-à-dire qu'en faisant cela, il veut construire quelque chose pour nous. Et donc ça, il faut en être persuadé. Et nous aussi, en tant qu'amis, savoir quelquefois mettre les points sur les i à ceux qui sont nos amis. Savoir dire la vérité, parce qu'on ne rend pas toujours service en faisant comme si de rien n'était, et puis les gens s'enfoncent dans leur égarement, et ensuite c'est trop tard. On réagit, mais c'est trop tard. Et parce qu'on n'a pas parlé assez tôt, après il faut être complètement cassant. On ressent ça quelquefois. Vous avez quelqu'un qui est en train de mal tourner, c'est votre ami, vous dites rien. Bon, c'est sa vie, quoi. Et puis tout d'un coup, là, ça va vraiment trop mal, et là, il faudrait intervenir, mais c'est trop tard, parce que là, vous allez lui faire la morale, quoi. Parce que c'est trop. Il est arrivé à un point où on ne peut plus parler tranquillement, calmement. Donc il faut savoir parler avant. Avant que les choses soient trop graves, une petite blessure qui va remettre un peu sur le droit chemin. Ça, c'est de l'amitié. La vraie amitié. Et puis, dans le même endroit, un peu plus loin, verset 9. Un verset qui peut paraître un peu obscur, alors je l'ai lu dans plusieurs traductions pour arriver à le comprendre. L'huile et le parfum réjouissent le cœur, et la douceur d'un ami est le fruit d'un conseil qui vient du cœur. Alors, ce qu'il faut comprendre sur l'ami, c'est ce que nous apprécions de l'ami, ce qui fait qu'un ami nous est cher, c'est qu'il est capable de nous donner des conseils qui viennent du cœur, c'est-à-dire de nous dire des choses sincères et avec son cœur, c'est-à-dire que c'est bien intentionné. C'est pas formel, c'est pas pour donner des conseils comme on donne des conseils. C'est qu'il va, comme c'est notre ami, il veut vraiment notre bien, alors il va nous donner un conseil vraiment pour nous envoyer dans la bonne direction. Et ça, je crois que c'est vrai aussi, on peut l'appliquer au Seigneur Jésus. Quelquefois, on a l'impression que les exhortations que le Seigneur nous donne, tous les commandements, tout ce qu'il est convenable de faire lorsqu'on est chrétien, quelquefois c'est un peu pesant et c'est des obligations ou des interdictions qui n'ont pas tellement de sens. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Il nous faut être bien persuadés que tout ce que la Bible appelle le bien, ou ce que Dieu appelle le bien, c'est quelque chose qui est profitable, qui est bon, qui fait que si tout le monde le fait, tout va bien. Il faut bien comprendre ça. Il ne faut pas s'imaginer que Dieu nous pose des repères, des règles pour nous embêter. Non, c'est simplement parce qu'il sait très bien comment les choses marchent et il sait ce qui est bon pour l'homme. J'ai lu un verset il n'y a pas très longtemps dans les Proverbes qui dit à peu près ça. Proverbe 10, on peut le chercher rapidement, verset 17. Et garder l'instruction, c'est le sentier qui mène à la vie. Mais celui qui abandonne la répréhension s'égare. Et garder l'instruction, c'est le sentier qui mène à la vie. La volonté de Dieu, elle va dans le sens de la vie. Et aussi, on lit dans Romains 8, la pensée de l'esprit, c'est la vie et la paix. Le Saint-Esprit, il communique la volonté de Dieu, qui veut diriger les hommes, il veut les amener vers quoi? Vers la vie et la paix. Le développement et l'épanouissement de la vie et la paix entre les hommes. C'est ça que Dieu veut construire. Et c'est ça qui est le bien, en fait. C'est peut-être une définition synthétique du bien. C'est tout ce qui conduit à plus de vie et à plus de paix. La définition du mal, à ce moment-là, c'est ce qui conduit à la mort ou à moins de vie et à la discorde, au désordre. Donc voilà ce que Dieu veut pour nous, c'est nous est profitable. Et donc voilà, il nous donne des conseils, ce qui nous conseille, ça vient du cœur. C'est par amour pour nous qu'il veut nous voir marcher dans une voie qui est droite. Alors on va faire un petit peu d'étymologie parce que le mot maître dans le Nouveau Testament est à l'origine présenté sous forme de mots grecs différents qui sont didaskalos et kurios ou bien epistates qui est assez proche. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Déjà peut-être on va lire Jean 13 verset 13, vous allez comprendre la difficulté du traducteur pour traduire ce verset. Jean 13 verset 13, le Seigneur Jésus réunit les deux dans une seule phrase. Alors là il est obligé de faire un choix pour qu'on comprenne la phrase. Donc Jean 13, verset 13, le Seigneur dit à ses disciples ceci, « Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. » En fait, il leur dit « Vous m'appelez maître et maître. » Mais il utilise pour cela deux mots grecs différents. Alors, Darby, en tout cas, dans ma traduction, a choisi l'option de traduire « kurios » par « seigneur », ce qui est le cas la plupart du temps, mais quelquefois il le traduit aussi par « maître », et puis de rendre donc « didaskalos » par « maître ». Alors, ce sont deux idées différentes, mais qui se rejoignent un petit peu quand même dans un certain sens. Le premier, didaskalos, c'est l'idée de celui qui enseigne. On a gardé ça dans la langue française, puisque les instituteurs, de temps en temps, enfin ça se fait de moins en moins, j'ai l'impression, mais si encore, on les appelle maîtres, maîtresses. Alors ça, c'est le maître qui enseigne. On ne va pas lire les versets, évidemment des dizaines de versets où on trouve ce mot-là. C'est la même chose que l'hébreu rabbi. C'est pourquoi, quelquefois, dans le Nouveau Testament, les personnes qui s'adressent au Seigneur Jésus l'appellent « Rabbi ». Pourquoi ? Parce qu'elles le disent en hébreu, et aussitôt, le rédacteur ajoute ce qui, interprété, signifie « maître ». Et donc, là, il met le mot grec, puisque le Nouveau Testament a été écrit en grec. Donc, il rend, c'est souvent comme ça dans l'Évangile, toutes les phrases, les interjections. Hein, par exemple, quand le Seigneur, sur la croix, dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Seigneur l'a dit en araméen, donc en hébreu, mais... un hébreu un peu particulier. Et là, pour bien rendre la sonorité de ce qu'il a entendu, le rédacteur transcrit exactement mot à mot dans la langue originale et puis il met l'interprétation en grec. Et alors nous, on l'a en français, celle en grec. Alors Rabbi aussi, les rédacteurs des évangiles ont de temps en temps donné Rabbi parce qu'ils l'avaient entendu comme ça, ça les avait frappés. Enfin, c'est pour rendre exactement ce qui a été dit. Donc Rabbi veut dire mon maître. Et il y a aussi Rabboni, qu'on trouve que deux fois dans le Nouveau Testament. C'est un aveugle qui a été guéri par le Seigneur Jésus. Et c'est Marie de Magdala, après la résurrection, Rabboni, quand elle retrouve le Seigneur Jésus ressuscité. Donc là, c'est mon maître suprême, c'est-à-dire, c'est pas maître, un maître parmi d'autres, c'est mon maître, celui qui est mon maître, que j'écoute, mon maître à penser, hein. C'est mon maître absolu, mon maître suprême. Donc Rabboni, c'est cette idée très forte. Tout ça vient de Rab, d'après ce que j'ai lu, qui veut dire grand. Donc c'est quelqu'un qui est grand pour vous, qui vous aimez écouter, enfin qui est vraiment votre conducteur, on va l'appeler Rabbi ou Rabboni si c'est vraiment le maître suprême. Alors ça c'est le grec didaskalos, le maître qui enseigne. Et puis il y a aussi, dans un autre mot, kurios ou epistates, l'idée de celui qui dirige, voire même qui possède. C'est-à-dire le maître de l'esclave, hein, c'est kurios, c'est son seigneur, hein, c'est celui qui est maître de vous, c'est-à-dire que non seulement vous lui obéissez, mais vous lui appartenez. Donc dans kurios, il y a cette idée d'appartenance. On l'a moins dans épistatès. Épistatès, c'est le chef.